Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. C'était l'une des priorités affichées par Emmanuel Macron quand il a été élu président, relancer la compétitivité de la France. Le candidat de la Startup Nation a-t-il réussi? C'est la question que nous posons ce soir dans le débat du jour. Un mandat d'Emmanuel Macron donc marqué par des réformes menées de tambour battant. La dernière en date, France 2030, dotée de 30 milliards d'euros. Un mandat troublé également bien sûr par la crise du Covid-19. Alors à moins de 6 mois du premier tour de la présidentielle, c'est l'heure du bilan. Les résultats sont-ils à la hauteur des investissements? Qu'est-ce qu'il faut penser de la politique en matière de compétitivité insufflée par le chef de l'État? Voilà nos questions ce soir, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, pour débattre, j'accueille à mes côtés en studio Alexis Karklins-Marché. Bonsoir.
Bonsoir Romain.
Vous êtes associé du cabinet de conseil 8 Advisory. Nos deux invités face à vous sont en ligne. Thibault Laurent-Joie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en économie de l'université d'Aalborg, Danemark, et membre de l'association des économistes atterrés. Et puis également en ligne, Philippe Crevel, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Merci à vous trois de participer à ce débat du jour. Philippe Crevel, je vais démarrer avec vous. Comment s'est traduite la politique de compétitivité qu'Emmanuel Macron a insufflée tout au long de son mandat?
Emmanuel Macron a poursuivi, amplifié, on va dire, la politique que François Hollande a menée à partir de 2014-2015 avec le pacte de responsabilité et de solidarité, donc qui visait justement à améliorer la compétitivité des entreprises françaises avec une amélioration du taux de marge. Et donc, quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée en 2017, il va poursuivre cette politique avec sa fameuse loi sur le travail, puis également ces mesures qui concernent l'épargne avec l'adoption de la réforme sur l'imposition forfaitaire unique, l'IFU à 30%, et également la suppression donc de l'ISF, qui est remplacé par un impôt sur l'immobilier, l'IFI. Donc ça, c'était vraiment au début de mandat. Il a reporté un peu dans le temps, d'ailleurs, la baisse de l'impôt sur les sociétés qui était programmée depuis des années et qui donc va être appliquée prochainement sur les 25% d'imposition sur les bénéfices. Par ailleurs, compétitivité toujours, ça a été le transfert d'une partie des cotisations sociales vers la CSG, la contribution sociale généralisée, donc un transfert sur une assiette plus large pour améliorer, on va dire, la compétitivité également des entreprises et faciliter l'emploi. Donc ça, c'est son début de mandat. Évidemment, comme vous l'avez indiqué, il a été touché à la fois par la crise sanitaire, mais avant, il y avait eu les Gilets jaunes et donc la réforme des retraites qui a donné lieu évidemment à des manifestations et à des blocages dans le pays qui ont évidemment, on va dire, impacté, on va dire, l'image recherchée sur la compétitivité française. Mais on va dire que c'était un des objectifs majeurs, c'était de changer, on va dire, l'image de la France et de la rendre attractive en interne et en externe.
Alors, est-ce que cette image, est-ce que cet objectif a été atteint, Alexis Karklins-Marché? C'est une question vaste, mais en quelques mots, quel bilan vous feriez de la politique du président Emmanuel Macron en matière justement de compétitivité?
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la compétitivité, on peut la mesurer de multiples façons. Et c'est vrai que quand on parle de compétitivité, typiquement Philippe Crevel a rappelé un certain nombre de mesures, notamment dans le domaine de la fiscalité, qui n'est finalement qu'un élément, et ce qu'il disait était tout à fait juste, mais qui n'est qu'un élément de la compétitivité. Donc la compétitivité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Vous savez, on parle souvent de la compétitivité coût versus la compétitivité non coût, qui sont liés à des avantages de telle ou telle entreprise. Mais quand on se met au niveau d'une nation, il faut s'intéresser à d'autres domaines. Et la compétitivité de nation, on s'aperçoit quand on regarde les nations qui sont généralement considérées comme les plus compétitives, ce sont pas les moins disantes socialement, ce sont pas les moins disantes fiscalement. Je pense aux pays scandinaves, qu'un de nos invités connaît bien. Je pense aux Pays-Bas, je pense au Canada, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à Singapour, etc., etc. Et ce que l'on voit, c'est que c'est un ensemble de facteurs. Et dans cet ensemble de facteurs, il y a au-delà des aspects fiscaux, vous avez la facilité de faire des affaires et l'environnement des affaires en général. Vous avez la taille des marchés, vous avez le niveau éducatif, vous avez la stabilité politique et sociale, et vous avez même aujourd'hui des dimensions qui prennent beaucoup d'importance, comme la protection de l'environnement et la qualité de vie. Et c'est ça qui est important, parce que la compétitivité d'une nation, c'est à la fois effectivement attirer des investissements étrangers, mais aussi stimuler l'activité économique sur votre territoire, pour créer de l'emploi et pour augmenter le pouvoir d'achat à terme. Alors, est-ce que sur ces critères-là, on peut dire que sur les dernières années, la France a progressé ? Elle a progressé sur certains éléments, et on le voit dans les classements. Hein. C'est le rapport que nous publions hier sur justement la compétitivité. On s'aperçoit que sur certains indicateurs, la France a progressé.
Alors, c'est une analyse de la compétitivité de 25 pays, dont la France.
Hein. Voilà, dont la France, sur 25 classements, justement, qui couvrent les dimensions que je viens d'évoquer. Et si la France progresse sur quelques critères, et notamment, on vient de l'évoquer sur la dimension fiscale, ça n'est qu'un seul élément. Je pense qu'il est encore à la fois trop tôt et probablement parce qu'on n'a pas encore toutes les mesures pour le faire, pour pouvoir conclure que la France a vraiment progressé en matière de compétitivité. J'ai juste un point, Romain, qui est très important, c'est que souvent ce terme est connoté péjorativement, négativement, notamment en France. Alors, encore une fois, la réalité, c'est qu'elle est, c'est un vrai enjeu.
Pourquoi d'abord?
Parce que c'est souvent assimilé, c'est ce que j'évoquais, c'est souvent assimilé à les moins-disant socialement ou les moins-disant fiscalement. Mmh. Et la réalité, c'est
que... Et ça pose aussi, on en parlera, la question environnementale. Est-ce que produire, c'est à l'encontre de la transition énergétique.
Et pour terminer sur ce point, c'est pour ça que la méthodologie que nous utilisons, qui est une méthodologie qui est finalement assez simple, c'est de regarder les grands classements pays en matière de compétitivité, mais en prenant les différentes facettes, et de regarder comment les différents pays se positionnent. Et pour le faire simple, je dirais que la France, c'est un pays qui se situe plutôt dans la moyenne, voilà, mais que les vrais sujets structurels, au-delà de la fiscalité de telle ou telle mesure, sont des sujets de moyen et de long terme, et que là-dessus... même s'il y a des conjonctures particulières et que la pandémie a beaucoup joué sur l'économie française comme sur l'économie mondiale, on est encore une fois beaucoup trop tôt dans la séquence pour pouvoir conclure sur l'évolution de la compétitivité française.
Thibault Laurent Joie, est-ce que les résultats en matière de compétitivité en France sont à la hauteur des réformes engagées? On en a cité quelques-unes. Philippe Crevel a débuté son intervention en citant la loi travail, la suppression de l'ISF. Qu'en pensez-vous? Est-ce que voilà, les résultats sont à la hauteur des investissements? Parce qu'il y a eu ces réformes menées tambour battant pendant 5 ans sous Emmanuel Macron.
Bon, alors, déjà, alors je souscris à pas mal d'éléments qui ont été avancés par les autres invités. Il faut être honnête et distinguer la période de la présidence d'Emmanuel Macron en deux parties, hein, 2017 à début 2020, et ensuite la période avec Covid qui a été tellement exceptionnelle que même si on peut, après c'est un autre sujet, mais critiquer la réponse qui a eu lieu, on peut dire que globalement c'est quelque chose qui a amené, on est passé d'une attitude, disons, qui voilà, prétendait améliorer la compétitivité à une politique véritablement de minimisation des dégâts. Donc j'ai pas forcément envie d'élaborer trop sur la partie Covid.
Et si c'est compliqué, je viens de trouver une uniformisation à ce quinquennat assez hors norme.
Voilà, donc, mais par contre, si on regarde la période 2017 à début 2020, et ainsi que ça a été rappelé par Philippe Crevel, il y a une continuité avec le quinquennat de François Hollande. Écoutez, je vais reprendre une formule du criminologue Alan Bauer qui disait récemment qu'on est dans une ère de communication sans contenu et que ça marquait bien le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'en matière de compétitivité, c'est globalement le cas, c'est-à-dire qu'on est on évolue entre beaucoup de communication, je ne veux pas parler de réformettes, mais je pense qu'on ne se donne pas les moyens de nos ambitions. Et déjà, est-ce qu'on définit les bonnes ambitions? C'est une question sans doute plus vaste. Mais au-delà de ça, on n'est pas vraiment très sérieux, si vous voulez. Je pense que
c'est à dire
la France et en réalité à la plupart de l'Europe, mais si vous voulez, je parle par exemple avec mes collègues chinois, si vous voulez, quand je leur explique un peu comment la France manœuvre sur différents plans, ils rigolent.
Mais pourquoi?
On n'est pas du tout. Mais parce que, je vais le dire assez cruant, mais si vous voulez, l'Europe a tout simplement inventé une nouvelle discipline olympique qui consiste à courir un marathon avec les yeux bandés et les pieds attachés. Comment est-ce que vous voulez, lorsque le reste du monde utilise des outils actifs de politique commerciale, quitte à aller courir un emploi de quotas, de douane, comment est-ce que vous voulez être la seule zone au monde qui refuse d'employer ces outils parce que une théorie économique basée sur un ensemble d'hypothèses complètement irréalistes s'est imposé idéologiquement, notamment dans l'Union européenne, et que ça dicte la conduite de la politique économique, et que l'on constate C'est-à-dire, recueillez les statistiques, faites les tests, vous voyez que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur des attentes.
C'est concrètement, vous voulez dire que l'Union européenne et donc la France ont trop de barrières pour mener une véritable politique de compétitivité, donc rivaliser avec les États-Unis, oui. Avec la Chine?
Voilà, si je devais le dire très simplement, les pays qui réussissent aujourd'hui, donc on parle souvent de l'Allemagne, effectivement on peut parler donc de l'Autriche, des Pays-Bas, etc., c'est des pays, vous n'avez pas de pays qui ont substantiellement altéré leur structure productive, typiquement au cours des 20 dernières années. Donc si vous voulez, au moment de l'introduction de l'euro, les pays typiquement comme l'Allemagne qui était extrêmement bien ancrée sur le plan industriel et notamment à travers la fabrication et l'exportation de machines-outils, se débrouillent très bien aujourd'hui parce que si vous voulez, leur activité est tirée par l'investissement mondial. Tous les pays mondiaux, la Chine, dites-vous que la Chine réalise un excédent commercial qui est énorme. Elle est en excédent vis-à-vis d'à peu près tous les pays dans le monde. L'une des exceptions, c'est l'Allemagne. Parce que la Chine a besoin d'acheter des machines outils de l'Allemagne.
Donc, or, quel est le problème?
C'est quelque chose qui s'est produit.
C'est l'innovation le problème?
Oui, en fait, si vous voulez, on va faire. Enfin, je prends un parallèle historique très rapide pour montrer qu'il ne faut pas opposer le marché et l'État comme on a tendance à le faire. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'en limitant les marges de manœuvre de l'État, qui empêchait le marché de se développer, on allait permettre une espèce d'apparition spontanée grâce aux forces de marché de nouvelles industries. Ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire, d'accord? Ce qui se passe sur ce que vous avez vraiment le décollage industriel, c'est que les États permettent au marché, à l'industrie de se développer. Vous avez toujours, il y a très 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 peu d'exceptions dans l'histoire, vous avez toujours un rôle important de l'État. Pourquoi est-ce que la Chine a réalisé au cours du dernier quart de siècle la plus importante performance de croissance économique de l'histoire de l'humanité? La Chine a un État extrêmement fort, tout en ayant des parties de son économie qui sont plus ou moins dérégulées. Et elle a une économie de marché, en dépit du fait que ça s'appelle, on appelle ça le communisme, mais c'est pas vraiment ça. Les Chinois sont des gens pragmatiques, ils savent qu'il y a besoin d'État pour avoir une économie forte. Mmh. Voilà. Et si je devais le résumer très simplement, c'est ça le problème.
Alexis Karklintz, marché, un manque d'engagement de l'État, c'est ça, en France, pour vraiment avoir une compétitivité digne de ce nom?
C'est toujours difficile quand on parle de manque d'engagement de l'État en France, où on sait que l'État est omniprésent et on peut toujours en contester l'efficacité ou l'ambition. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas réduire une politique de compétitivité d'une nation à une simple politique fiscale. Ça fait partie des éléments où vous voulez stimuler l'activité économique, vous prenez telle ou telle mesure fiscale, ça peut bien sûr stimuler l'activité économique, mais on le voit, et je vais rejoindre en partie ce que dit Thibault Laurent-Joie, c'est que, notamment sur les infrastructures, vous voyez, il y a un classement que l'on retient, pour nous c'était notre cinquième édition de ce rapport, et dans ce rapport, à chaque fois, je reprends le classement des infrastructures, qui ne varie pas tous les deux ans, mais qui donne une certaine indication de l'importance que l'on peut attribuer à ce critère. Vous ne pouvez pas avoir une économie moderne si vous n'avez pas d'infrastructures de qualité. Donc, toute mesure qui serait juste fondée sur la fiscalité, si on regardait, vous pouvez prendre un pays par exemple comme la Bulgarie, qui est un pays qui est dans l'Union européenne, qui est très très agressif d'un point de vue fiscal. Bon, ça veut dire que c'est un pays qu'on considère comme extrêmement compétitif. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres critères, encore une fois, qui rentrent en ligne de compte. L'infrastructure en fait partie. Donc c'est toujours, en fait, c'est une marche, c'est une danse à deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois un secteur privé qui soit stimulé et en même temps un certain nombre d'investissements publics qui permettent, parce que ce sont des investissements de long terme qui ne répondent pas à des critères de rentabilité à court terme, qui permettent de créer un écosystème favorable à la fois à la dynamique économique domestique, c'est-à-dire du pays en question, mais aussi d'attirer des investissements étrangers. Et quand on regarde l'Union européenne, en fait, il n'y a pas d'uniformité. Je crois que c'est important. Il y a encore une fois des pays qui réussissent bien, qui réussissent mieux que nous, d'autres moins bien. Donc, il faut pas. Vous savez, moi, je dis souvent que la France va mieux qu'elle ne le croit et moins bien qu'elle ne le pourrait. Et je crois que on a tellement un manque de confiance, une telle culture de la défiance et un pessimisme que on a tendance à noircir un certain nombre de réussites. La France, par exemple, en matière d'éducation, alors pas éducation primaire. Là, c'est un gros. Pour moi, c'est une sorte d'angle mort aujourd'hui parce que en matière de compétitivité, la France est plutôt très très médiocre dans les classements. Je pense notamment au classement PISA, vous savez, de l'OCDE.
Qu'on, oui, 23e place sur
26e, même 26e.
Entre 20 et 26, voilà. Et c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Et effectivement, ça commence là.
Alors que derrière, ce qui était extraordinaire, c'est quand même un défaut du système français probablement, c'est que quand vous regardez le classement dans les grandes universités mondiales ou les masters en management, la France est plutôt bien classée, voire très bien classée. Si on prend le master en management, la France est même le premier pays du monde hors États-Unis. Pourquoi c'est important ? Parce que ce sont potentiellement les cadres dont vous allez avoir besoin pour encadrer vos entreprises et puis pour conduire un certain nombre de projets d'investissement. Donc ce sont des critères comme cela qui sont aussi importants. Et au-dessus, enfin en transversal, il y a à la fin le critère de la confiance. Et je l'ai évoqué sur ce critère-là. On peut dire que là, la France n'a pas retrouvé confiance, ou en tout cas pas autant. Il y a quelques chiffres sur l'emploi qui sortent, qui sont plutôt encourageants. Mais il faut dépasser ce cadre-là. Je crois qu'il y a un certain nombre de critères qui doivent être pris en compte. Et une vraie politique de compétitivité irait au-delà de l'aspect, du simple aspect fiscal.
Philippe Crevel, est-ce que vous partagez l'avis d'Alexis Karklins-Marché? On a tendance à s'enfermer dans une idée de fiscalité liée à la compétitivité, c'est beaucoup plus large. Et dans ce domaine-là, quand on l'élargit, nous dit Alexis Karklins-Marché, finalement, la France a des atouts.
Premièrement, qu'est-ce qu'on constate ? C'est vrai que la France n'a pas aujourd'hui retrouvé une compétitivité extérieure extrêmement importante. La preuve, le déficit commercial est à des niveaux records, hein, plus de 60 milliards d'euros. Il se creuse encore en 2021. C'est le produit de ces 10, 20, 30 dernières années. C'est la désindustrialisation, et ça a été très bien dit sur le rôle de l'industrie. La France n'a plus d'industrie de haut niveau, sauf sur quelques secteurs, et en plus ces secteurs aujourd'hui sont un peu handicapés du fait de la crise sanitaire, c'est en particulier le cas de l'aérien, et donc on paie, on va dire, les 30 dernières années de déclin industriel. C'est évident que ce n'est pas en un mandat, ce n'est pas en 5 ans, surtout qu'en plus maintenant les mandats présidentiels, ce n'est pas 5 ans, mais c'est quasiment 3-4 ans, et qu'en plus il y a une crise comme actuellement, c'est réduit à la portion congrue, qu'on peut changer la donne.
Mais je me permets de vous couper, parce qu'il est important ce point-là de la désindustrialisation de la France. Est-ce qu'il y a eu une avancée sous le quinquennat d'Emmanuel Macron? Parce que dans l'entre-deux-tours, en avril 2017, il promettait un plan Marshall de la réindustrialisation de nos territoires économiquement perdus. Il y a eu la mise en place des territoires d'industrie en 2018. Est-ce que ce sont des avancées?
Il y a eu un volontarisme. Au moins, il a fait preuve de volontarisme au niveau de la communication. Mais on ne change pas, et ce n'est pas le chef de l'État, hein, ce n'est pas un gouvernement qui peut changer la donne en 2 ou 3 ans. Hein, ça nécessite, et ça a été très bien dit, un niveau de formation élevé. Donc ce n'est pas en étant 23e sur le classement PISA qu'on peut évidemment favoriser le retour de l'industrie où on a besoin d'ingénieurs, de techniciens de haut niveau. Ça nécessite évidemment de la recherche, de l'innovation. Et là, pareil, ce n'est pas en 6 mois, 1 an qu'on peut changer la donne. Et d'autre part, il faut de l'investissement, il faut des capitaux. Hein, et on sait bien que là, pareil, hein, ce n'est pas parce qu'on change les impôts que immédiatement les investisseurs vont choisir la France. Tout ceci est un processus très long. Hein, et c'est vrai que le temps économique, parfois, c'est un peu plus long que le temps électoral. Et donc, évidemment qu'on n'a pas encore, on va dire, les plus-values de cette politique. Et puis, il faut surtout qu'elle soit poursuivie et amplifiée. On part d'assez loin, on a un déficit industriel depuis maintenant 20 ans, on a un déficit commercial depuis 20 ans, on a même maintenant un déficit des services certaines années, donc on voit qu'on est dans une situation difficile et que cette recherche de la compétitivité est une ardente obligation si on veut continuer à avoir un rôle économique et si, surtout si on veut que notre croissance et notre niveau de vie progresse dans les prochaines années.
Thibault Laurent-Joie, Emmanuel Macron, c'est son point noir concernant la compétitivité. Il n'a pas assez agi en amont. Je traduis un petit peu ce que nous dit Philippe Crevel quand on évoquait par exemple la recherche. La recherche, c'est 2,21% du PIB en France. On est loin derrière l'Allemagne ou les États-Unis. Même Emmanuel Macron récemment a évoqué, je cite, le sous-investissement dans l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Est-ce que c'est la clé pour rebooster cette compétitivité française?
Alors, c'est l'une des clés. Et en passant, alors vous avez raison. Maintenant, je me demande dans quelle mesure Emmanuel Macron a désavoué sa ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, hein, qui à l'Assemblée nationale soutenait à peu près le contraire. Mais ce point tout à fait mineur, mis à part, je ne peux pas prêcher pour ma paroisse, d'autant que je suis passé par le secteur privé pendant plusieurs années, donc je ne suis pas un professeur depuis toute ma carrière, mais pour rebondir sur les points évoqués par les autres invités, évidemment, il est important d'avoir, on appelle ça le capital humain, les ressources humaines, le niveau de formation, etc. Et il est important d'avoir un système scolaire qui fonctionne. Et c'est vrai que le système scolaire français présente des lacunes. Donc, effectivement, j'habite au Danemark. Et ça fonctionne assez différemment au Danemark. Alors, tout d'abord, il y a les moyens. Je ne vous cache pas que du primaire, de la maternelle même, la maternelle c'est différent, mais du primaire à l'université, les rémunérations sont quand même plus substantielles. Ensuite, il y a un paradigme qui, je pense, est assez différent dans pas mal de pays, c'est que par rapport à la France notamment, c'est qu'on charge moins les élèves de cours. Et on cherche à développer leur esprit critique et leur capacité, en fait, on les apprend à apprendre. Alors qu'en France, on est plutôt dans le paradigme du gavage, si je devais un peu caricaturer. Et ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel il serait bon que la France, le système scolaire, se remette un peu en question. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, il faut accepter. Il faut accepter de dépenser plus et de le voir comme un investissement.
Alors, la France a déjà beaucoup de dépensé. Hein. On est à 2600 milliards d'euros de dette publique.
Désolé, ce n'est pas une émission sur la dette publique. Hein. Je serais très heureux d'en parler.
Bien sûr, mais c'est pour dire que
sur le plan de dépenses... Le Japon est à 250% du PIB. Si vous voulez, mathématiquement, à partir du moment, de toute façon, où les taux d'intérêt sont proches de zéro, voire négatifs, mathématiquement, votre dette publique, elle peut tendre vers l'infini sans être... problématique du point de vue strictement technique, dès lors qu'elle est dénominée, libellée dans votre devise et que votre banque centrale se prête garante de la dette publique, ce qui de facto est le cas dans la zone euro depuis le quantitative easing. Donc en réalité, la dette publique, bon, à nouveau, j'habite au Danemark, dans la dette publique est tout à fait mineure, on est entre 30 et 40% du PIB, on va très bien, merci beaucoup, mais je vous garantis que la dette publique de la France ne m'empêche pas de dormir. Et que de toute façon, les banquiers centraux, même s'ils disent autre chose, ont bien compris qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être les agents de la destruction financière du système à travers l'effondrement de l'État. Ça n'arrivera pas. Donc ceci étant mis à part, il faut accepter, à un moment donné, il faudra accepter, je pense, si on ne veut pas continuer sur une espèce de déclin effectivement de certaines parties du système éducatif, et n'oublions pas aussi les conditions incroyablement difficiles de travail des enseignants, car comme le rapport d'ailleurs de Advisory 8 y réfère, on a des problèmes on a un manque de professeurs, le ratio professeur-élève en France est désavantageux par rapport à pas mal de pays. Si vous voulez, à un moment donné...
Et le salaire des professeurs, qui est parmi les plus bas en France, parmi les pays de l'OCDE.
Il n'est pas bon. Là, il n'y a pas besoin de... Si vous voulez, les chiffres sont là. Il n'est pas bon. Voilà. Après, on peut, comme je l'ai dit, il y a des méthodes aussi qui sont différentes dans les autres pays. Les élèves ont moins de cours. Ça permet aussi de décharger un peu les professeurs parce que c'est difficile d'enseigner et de bien préparer, d'enseigner, de bien noter, bien évaluer, etc. On demande beaucoup aux professeurs en France et peut-être que il faudrait réfléchir à des manières de mieux utiliser le temps des professeurs.
Alors, Alexis Karklins-Marché, on a l'impression de s'éloigner de ce débat sur la compétitivité. On comprend bien qu'il est clairement lié et que selon Thibault Laurent-Joie, vous allez me dire si vous êtes d'accord, pour relancer la compétitivité, c'est clairement la culture française qu'il faut changer.
Il y a des éléments qui doivent évoluer, mais je crois que, vous savez, cette idée des modèles qu'il faut copier n'a pas de sens, elle est inepte. Ce que nous souhaitons montrer dans ces rapports de compétitivité, c'est de souligner qu'il y a plusieurs façons d'être compétitif. C'est un ensemble, c'est une alchimie. Ça fait partie justement de il n'y a pas de recette à copier. Ça fait partie
On peut s'inspirer.
C'est ça. Et c'est très important. La différence entre le modèle et l'inspiration est très importante. Parce qu'en France, on a tendance toujours à se rabaisser. Et objectivement, quand on voit, on a parlé du déficit industriel, du déficit commercial, des finances publiques françaises, même si certains ne s'en inquiètent pas. En tout cas, ça peut inquiéter un certain nombre d'investisseurs qui vont comparer, quand vous regardez les pays les plus compétitifs dans les différents classements aujourd'hui, ce sont généralement des pays qui ont des finances publiques assez solides, ou en tout cas perçues comme solides. Et encore, je ne veux pas entrer dans le débat de la dette publique.
Mais... Et la France est loin, parce qu'on. Je voudrais citer quand même pour effectivement avoir à titre de comparaison, la France n'est pas parmi les pays les considérés comme les plus compétitifs. Je vais citer l'édition 2021 de l'index mondial de compétitivité des talents qui a été publié. Et pour la première fois, la France fait son entrée dans le top 20,
dans le top
19e.
Et c'est intéressant parce que vous prenez à peu près l'ensemble des classements de compétitivité qui existent. La France est toujours autour de la 15e, 20e, 25e place. Alors évidemment, parfois c'est comparé à 140 pays, parfois 70, 80 pays. Par exemple, le PISA, je crois que c'est 77 pays. Alors que si vous prenez l'indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial de Davos, vous savez, qui est peut-être l'étude la plus complète, parce que c'est 114 critères qui passent en revue l'innovation, l'infrastructure, la fiscalité, la recherche. Enfin, c'est vraiment une étude très très complète. Eh bien, là, la France est, alors, elle était 21e il y a encore quelques années. Dans la dernière édition pré-pandémie, qui date de 2019, la France était montée à la 15e place, passée de la 21e à la 15e place. Donc, vous allez dire, c'est déjà effectivement une évolution positive, parce qu'il y a ces éléments que nous avons évoqués. Nous restons une nation innovante, nous restons une nation avec des bonnes infrastructures et un marché qui est important. C'est quand même une des grandes économies européennes. Mais pour autant, c'est vrai que sur ces critères dans les classements, on est globalement assez moyen. Il y a des nations qui s'en sortent mieux. Alors souvent, on objecte le fait que ce sont des petites nations. C'est vrai, on en parle pour le Danemark, pour la Finlande, pour la Norvège, pour la Suède aussi. On parle aussi de la Suisse, bien sûr, souvent, ou de Singapour, ou de la Nouvelle-Zélande. Et on fait la remarque, oui, mais ce sont des pays qui font moins de 10 millions d'habitants. Après, il y a des pays qui sont à plus de 10 millions d'habitants. Je pense à l'Australie, je pense au Canada, je pense sur certains critères les États-Unis. Et attention, je ne fais pas des États-Unis un modèle de compétitivité. Donc je précise, l'Allemagne, bien sûr, il y a un certain nombre de nations qui sont avec une certaine taille, qui arrivent à être considérées comme plus compétitives que nous. Et ça, c'est intéressant.
Et que pèse la transition énergétique dans des classements comme ceux-ci? Parce que évidemment, on ne peut plus parler de compétitivité sans parler de transition énergétique. Et il ne faut pas que ce soit deux termes qui sont opposés.
Non, et alors, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs classements sur l'environnement qui existe, et ce qui est peut-être celui qui est le plus suivi, celui en tout cas que nous on aime suivre, parce que là encore il est assez complet, c'est le classement de l'université de Yale, qui est un classement qui s'appelle l'indice de performance environnementale, qui reprend une quinzaine de critères. Donc c'est pas juste l'émission de CO2. Ce que je veux dire, c'est que ça s'intéresse à l'accès à l'eau, à l'assainissement, à la mortalité infantile, à la pollution de l'air, au taux de nitrate dans l'eau. Enfin, il y a la protection des zones naturelles. Il y a un ensemble de critères qui sont pris en compte. Et là, dans ces classements-là, je pense qu'ils vont être de plus en plus regardés parce que évidemment, pour un investisseur, pour une entreprise, c'est impossible aujourd'hui d'investir, de développer son activité économique sans prendre en compte la dimension environnementale, et notamment dans les critères d'investissement qu'on peut voir, on le voit notamment dans les fonds d'investissement, on travaille nous-mêmes avec un certain nombre de fonds d'investissement, ils sont de plus en plus attentifs au type d'entreprise, les mesures qui sont prises par les entreprises et les pays dans lesquels les entreprises investissent. Et donc, quand on regarde aujourd'hui les pays les plus les plus avancés en matière de protection environnementale, la France est plutôt bien classée. Elle bénéficie évidemment d'une économie plutôt moins carbonés que d'autres, mais il y a d'autres pays qui sont en général très compétitifs, qui sont aussi avec des performances environnementales assez favorables.
Mais il y a eu des critiques aussi sur ce point-là. Je voudrais entendre Philippe Crevel, notamment après France 2030. Est-ce que c'est suffisant? On a parlé de faire évoluer la culture française pour relancer la compétitivité. On reste dans ce schéma de innover, produire, exporter. Est-ce que c'est compatible avec la transition énergétique, avec les objectifs qui s'imposent?
La transition énergétique s'impose à nous, et on voit bien d'ailleurs que dans France 2030, il y a des crédits qui sont prévus ou des objectifs de crédit prévus pour la filière hydrogène. Il y a également donc la volonté de développer de nouveaux réacteurs nucléaires, et si on est bien noté en matière environnementale, on le doit en grande partie aux investissements qui ont été réalisés dans les années 70-80, par Georges Pompidou, par Valéry Giscard d'Estaing, et puis poursuivi par François Mitterrand. Donc on voit d'ailleurs la durée, le temps qu'il a fallu pour construire ce parc de centrales nucléaires. Donc je dirais que 2030, ça ne peut être qu'une étape intermédiaire d'ailleurs, pour aller vers 2050 et la neutralité carbone. Mais je pense qu'il est évidemment impératif pour la France, en matière de transition énergétique, d'être un des pays leaders. Ça signifie évidemment sur les techniques de batterie, d'hydrogène, de récupération du dioxyde de carbone ou de captage, d'être en pointe, d'avoir des équipes de recherche. Et on a bien vu que, ça a été signalé, que si la France a été le seul pays à ne pas avoir son vaccin au moment de cette crise sanitaire, c'était un petit signe de faiblesse, c'était un signe, négatif. Au niveau des grands pays, le seul pays parmi les cinq grandes puissances du Conseil de sécurité, ça a été soulevé. C'est un peu anecdotique parce que ça
n'a pas été. Vous avez raison. Rapidement, parce qu'on sait la fin. Allez-y.
Non, mais sur les autres sujets, je dirais que la transition énergétique, il ne faut pas qu'on rate le coup, il ne faut pas qu'on soit dans cette même situation.
Eh bien, merci Philippe Crevel, merci également à Alexis Karkins-Marché et merci à Thibault Laurangeois pour ce débat du jour qui est à présent terminé. Rendez-vous sur RFI.fr pour le réécouter.